Bienvenue à toi sur le podcast des nouvelles aventurières. Ce sont des femmes de tout âge et de tout horizon qui ont décidé de faire de leur vie une aventure à travers leur métier, leur passion ou leur défi personnel. Elles nous inspirent et nous prouvent qu'aujourd'hui, tout est possible. Elles ont choisi une vie hors du commun et nous racontent ici leur parcours, leur réussite, mais aussi leurs doutes et leurs échecs. Du rêve à la réalité, découvre les coulisses de l'état d'esprit de ces femmes actuelles, les nouvelles aventurières.
Bonjour Marie-Laure.
Bonjour Emeline.
Je suis trop contente de t'accueillir sur mon podcast aujourd'hui. Donc, tu es écrivaine, tu as écrit une dizaine de livres déjà. Le premier est sorti en 2010. Et donc, tu écris des livres sur le développement personnel et l'énergétique. Et j'ai décidé de t'inviter sur mon podcast parce que tu as une vraie vie d'aventurière. Et je trouve que tu as un profil vraiment atypique et hyper intéressant. Donc, merci d'accepter de le partager aujourd'hui. Comment tu vas ?
Eh bien, ça va bien. Merci, Emeline. Je suis vraiment honorée de pouvoir partager avec toi. Ce n'est pas souvent qu'on me pose ce type de questions sur mes aventures passées. Donc, je suis vraiment ravie.
Bah, très bien. Comme ça, on aura des choses que personne n'a entendues.
C'est sûr.
Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement avant qu'on rentre dans le détail de ta vie d'aventurière ?
Bah oui. Alors, comme tu l'as dit, je suis autrice de 10 livres. Je suis énergéticienne. C'est-à-dire que j'accompagne les gens à déployer leur énergie pour impacter encore plus le monde. Donc, voilà ce que j'ai fait les 20 dernières années. Et juste avant, j'étais responsable marketing dans des sociétés en France et à l'étranger.
D'accord, génial. Alors, toi, tu es tombée dans le bain de l'aventure dès ton plus jeune âge, si j'ai bien compris. Tu étais partie à l'aventure avec tes parents en bateau en étant enfant, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. En fait, quand j'avais une dizaine d'années, mes parents ont vendu leur maison pour acheter une ferme à la campagne et une coque de bateau en alu. Et en fait, leur rêve, c'était de partir à l'étranger, faire le tour du monde en bateau. Donc, ils ont acheté la coque en alu et ils ont travaillé à construire le bateau. Et on est parti, donc ça, je devais avoir une dizaine d'années, et on est parti de mes 13 à mes 15 ans autour de l'Atlantique. On n'a pas fait vraiment le tour du monde, mais on a fait nombre de pays. On est parti pendant 2 ans. Donc, moi, à cette époque-là, j'ai fait l'école par correspondance. Et j'ai fait ma 3e et ma 2e par correspondance.
Et ça s'est bien passé ?
Ah bah oui, impeccable. Moi, j'ai vraiment adoré cette expérience. D'abord parce que donc je te parle de ça, donc du coup tu vas faire un peu le calcul, mais je te parle de ça, c'était en 83, de 83 à 85. Donc ça veut dire que c'est une époque où c'était une vraie aventure, en tout cas vue de maintenant, puisque il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de GPS. Ça veut dire qu'on faisait le point au sextant. Ça veut dire qu'on, quand on partait, qu'on a traversé l'Atlantique, eh bien, on n'avait aucune communication. Donc, c'était une vraie autonomie, si tu veux.
Ah oui, d'accord.
Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai traversé l'Atlantique 3 fois, en fait. La première fois, c'était un retour anti-France, parce que mon père avait déjà emmené le bateau. Il avait fait une première traversée pour tester, savoir s'il pouvait le faire. Mmh. Et puis ensuite, il a testé avec toute la famille. Donc, j'ai fait une première traversée anti-France. Je devais avoir 12 ans. Et ensuite, on est parti sur le bateau, habiter vraiment sur le bateau, de mes 13 à mes 15 ans.
C'est une expérience de dingue. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'adolescents qui partent faire ça. Et comment tu l'as vécu, toi, la première, deuxième et troisième fois ? Est-ce que tu as pris goût ? T'aimais bien vivre sur un bateau ?
Ah ouais, moi, j'ai beaucoup aimé la première traversée. En fait, bon, ils ont tout fait, les parents, pour qu'on ait envie de revenir sur le bateau. Hein, donc, ils passaient beaucoup de temps, on jouait. Et puis, c'était une vraie découverte. Les étoiles, le plancton, faire des quarts de nuit, tout ça. Donc, il y avait une vraie responsabilisation au fur et à mesure. Et puis, la deuxième fois, moi, j'étais contente de partir. Même si ça impliquait, c'était un peu compliqué parce que ça m'a impliqué de laisser mes copines, si tu veux, à cette époque-là, parce que j'étais en troisième. Et puis en fait, on a visité plusieurs pays, donc Espagne, Portugal, Gibraltar. Ensuite, on a fait la Mauritanie, le Sénégal. Et puis après, on a traversé, on a fait le Cap-Vert, le Brésil, où on est resté 6 mois, les Antilles, et puis ensuite les Açores, la France, on est revenu. Et ça nous a pris 2 ans pour faire ça. Et en fait, moi, ce que j'ai adoré, c'est vraiment la découverte de nouvelles cultures. C'était vraiment, tu vois, moi j'ai des souvenirs, par exemple le Cap-Vert, maintenant c'est un endroit très touristique. À l'époque, il n'y avait rien. Et puis ça m'a appris à parler, à comprendre pourquoi il faut parler des langues étrangères, tu vois. À l'époque, on apprenait, par exemple, on avait fait des cours de portugais avec la vieille méthode assimile sur les cassettes, là, qu'on écoutait tous les jours dans le bateau. Tu vois, il y avait vraiment des choses sur l'adaptation, prendre conscience des autres cultures, découvrir. Enfin, c'était incroyable. Je pense vraiment que ça a influencé qui je suis maintenant, c'est obligé.
Oui, complètement. C'est vraiment le voyage immersif par excellence. Et comment tu as vécu ton retour en France? Du coup, tu avais 15 ans, c'est ça?
Oui, j'avais 15 ans et ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce que je suis retournée à l'école en première. Et en fait, je ne comprenais pas ce que les gens disaient, quoi. Enfin, à l'époque, ils parlaient du dernier groupe à la mode. Donc, le dernier groupe à la mode, c'était AA. Tu vois, et puis ils parlaient de football et moi je leur répondais reproduction des baleines en Pellissula Valdés, favela de Rio, mine de Minas Gerais. Enfin, c'était compliqué. J'ai réussi quand même à raccrocher. J'ai réussi à raccrocher les wagons. Quand on étudie au CNED, il y a une très grande autonomie d'apprentissage, c'est-à-dire c'est toi qui fais ton emploi du temps, c'est toi qui travailles longtemps si tu as besoin et pas longtemps si tu n'as pas besoin. Et c'était très difficile pour moi d'arriver à l'heure à l'école. Enfin, je ne voyais pas tellement l'intérêt, on n'était pas à 3 minutes près. C'était très difficile pour moi d'apprendre par cœur parce que je ne voyais pas l'intérêt non plus. Je préférais la réflexion et tout ce genre de choses. Mais bon, j'ai survécu.
Bon, tu as quand même réussi à passer ton bac tranquillement. Il s'est passé quoi après?
Après le bac, mes parents sont repartis à l'étranger. Ils ont été mutés, ils étaient profs, donc ils ont été mutés à Tahiti. Donc j'ai fait ma prépa HEC à Tahiti. Tu vois, l'endroit idéal pour faire une prépa HEC, hein, t'as tout le monde qui part au surf et toi t'es là en train de bosser, enfin n'importe quoi. Et du coup, j'ai fait ensuite une école de commerce à Paris.
À Paris, d'accord. Ouais. Ça t'a pris combien de temps ça?
Alors ça dure 4 ans. Et puis après, j'ai trouvé du boulot dans le sud de la France, 3 ans. Mmh. Et ensuite, j'ai démissionné parce que j'avais un boulot tellement parfait que je serais toujours au même poste, si tu veux.
Alors ça, c'est quand même plus tard. Ça mérite le coup de le souligner. Tu étais dans un poste parfait et tu décides de partir. Alors là, il y a beaucoup de gens qui se demandent mais pourquoi? Pourquoi tu es partie ici?
Eh bien, parce que donc je suis restée 3 ans quand même, c'est pas mal. Ben, je suis partie parce que ça manquait d'aventure, parce que moi, j'avais besoin de découvrir des nouvelles choses. Il y avait plein d'endroits dans le monde où je n'étais pas encore allée. Je ne connaissais pas l'Amérique du Sud, enfin, je ne connaissais que le Brésil. Et j'avais tellement aimé que j'avais envie de découvrir les autres endroits. Je voulais aller au Machu Picchu. Donc j'ai démissionné au bout de 3 ans. J'avais le boulot parfait dans le sens où j'avais un salaire tout à fait correct, j'avais tous les avantages et même plus que ce que tu peux demander, j'avais une retraite de cadre, enfin tout ça quoi.
Mais alors, comment tu
es resté machin, et j'ai tout laissé.
Parce que tu dis tu laisses tout, mais alors comment tu gères ça au niveau financier, au niveau de ton appartement? Tu es reparti à l'aventure comme ça, avec des économies, comment tu as géré?
Ouais, j'avais 6 mois d'avance d'économie, ça suffisait.
Ok, donc même pas peur, quoi, c'est ça. Tu mets de côté et puis tu repars à l'aventure. Et tu avais déjà des plans pour la suite ou tu savais vraiment pas du tout?
Pas du tout. Je suis arrivée, en fait, j'ai choisi d'aller au Chili parce que je connaissais personne. Et que du coup, c'était, si tu veux, je me suis dit, si je trouve pas de boulot là-bas, au pire, je reviendrai vers l'Argentine, je reviendrai vers le Pérou et du coup, j'en profiterai pour visiter.
au pire, ouais. C'est plutôt sympa.
En fait, j'ai trouvé du boulot en 15 jours. Donc, je n'ai pas pu visiter tout de suite. Donc, j'ai utilisé tous mes week-ends pour visiter du nord au sud le Chili. Et déjà, on sait comment c'est grand. Donc, je me suis régalée.
Et tu faisais quoi comme travail?
Oh, j'en ai fait plein. J'ai utilisé mes compétences en marketing. Le dernier boulot que j'ai fait, alors j'ai travaillé comme assistante marketing chez Michelin Chili. Puis après, j'ai travaillé comme responsable marketing direct chez Euro RSCG Chili. Et puis après, donc, je m'occupais de grands comptes type Peugeot et Alcatel. Et puis après, j'ai trouvé un travail dans une boîte chilienne où je m'occupais du marketing et de la communication de 42 points de vente de restauration rapide. Okay. Donc, tu vois, j'avais un chouette boulot, en fait.
D'accord. T'es resté combien de temps au Chili ?
Ben, 3 ans. Pareil.
J'ai dit 3 ans.
Ouais, c'est ça. Et parce qu'en fait, on est venu me débaucher pour me proposer un poste aux Antilles. Alors, comme j'avais déjà bien visité le Chili, je me suis dit, ah, oh, c'est pas mal. À l'époque, ma mère habitait les Antilles, mais c'est pas dans la même île. Et de ce fait, je me suis dit, ah, oh, bah, pas mal. Donc, j'ai démissionné. J'en ai profité pour visiter tous les trucs en Amérique du Sud que j'avais pas le temps de visiter. Donc, je suis allée aux chutes d'Iguassu. J'avais vraiment envie de voir, donc au Brésil, Argentine. Et puis, évidemment, au Machu Picchu. Et puis, je suis arrivée dans les Antilles, à l'île de Saint-Martin.
Et tu fais tout ça toute seule ?
Alors, non. Pour partir au Chili, je suis allée avec mon compagnon de l'époque, qui est resté. Il a trouvé une Chilienne. Et après, du coup, oui, moi, je suis partie toute seule aux Antilles. Je suis arrivée, j'étais toute seule.
Et c'était pour faire quoi aux Antilles, alors ?
Alors, c'était un poste, ce qui m'a fait démissionner du Chili, c'était un poste de responsable marketing et communication dans une boîte de liquoreux, enfin de liqueur. Mm-hmm. Et puis, en fait, il s'est avéré que ça ne me plaisait pas, donc j'ai changé. Et ça doit paraître très décousu, mais en fait, pas du tout.
Non, moi, ça me paraît tout à fait normal hein, en tant que job nomade.
Ah bon, d'accord, ça va alors. Et donc, après, j'ai eu un poste de responsable grand compte c'était un grossiste qui vendait au supermarché. Et là, je m'occupais des grosses marques type Kraft, Colgate Palmolive et Tropicana.
OK.
Et puis, j'ai démissionné avant que la boîte ne fasse faillite. Donc, j'ai eu du nez. Mm-hmm. Et là, je me suis retrouvée responsable marketing et communication de 3 casinos de jeux aux Antilles. Et c'était mon dernier poste salarié, tu vois.
Et bien, qu'est-ce qui s'est passé après ? Parce que là, tout ça, c'est l'époque, du coup, comme tu dis, tu étais salariée, mais à quel moment tu es devenue écrivaine ou autrice, comme on dit ?
Alors, je ne suis pas devenue écrivaine tout de suite. Je suis d'abord passée par la case énergéticienne.
Ah oui.
Donc, ça c'est arrivé aux Antilles, en fait. J'ai découvert l'énergétique aux Antilles. Je suis allée voir quelqu'un qui faisait ce que j'ai fait pendant 20 ans parce que j'avais une problématique personnelle que je voulais dépasser. Mmh. Et en fait, il m'a aidée à dépasser en 6 mois le truc que je traînais depuis 20 ans. Donc, je me suis dit, waouh, mais c'est super, pourquoi ça marche, comment ça marche. Donc, j'ai repris des études. Donc, je suis allée aux États-Unis pendant 4 ans pour comprendre comment ça marchait l'énergétique. Et puis du coup, je suis devenue énergéticienne. J'ai commencé à recevoir des clients. Et quand ma fille est née, donc il y a 15 ans, on m'a virée. C'était des casinos de jeux, donc c'était très américain. Et
ah oui, donc tu bossais encore dans des casinos de jeux aux États-Unis et en parallèle… Non, aux Antilles. Aux Antilles. Mais tu as quitté les Antilles pour aller aux États-Unis ?
Non, j'allais tous les 2 mois étudier aux États-Unis.
Ah, d'accord. Ok, tu faisais l'aller-retour. Mais tu avais gardé ton job. Ok.
C'est ça.
Et tu avais quel âge, du coup, quand tu as repris ces études d'énergétique ?
J'avais 30 ans.
30 ans, ok.
C'est ça. Et j'ai été diplômée à 35 ans, je crois que c'est ça. Oui.
Ok. Et donc, une fois que tu étais diplômée, donc tu t'es fait virer des Antilles ?
Non, je me suis fait virer de cette boîte de casino parce que j'étais enceinte et quand je suis revenue, il y avait quelqu'un à ma place.
D'accord.
Et en fait, je me suis dit que c'était ma plus grande opportunité. J'étais un petit peu énervée hein, quand même, hein, je l'avoue. Mais en fait, je me suis dit que ça devait être ma plus grande opportunité puisque j'allais pouvoir exercer en tant qu'énergéticienne. Donc, j'ai négocié évidemment mon départ. Normalement, tu ne vires pas une femme enceinte qui vient d'accoucher comme ça. Donc, j'ai négocié et ça m'a permis, si tu veux, de m'installer en tant qu'énergéticienne de manière très sereine, puisqu'en fait, j'avais négocié suffisamment pour oser me lancer et pouvoir confirmer si ça fonctionnait ou pas. Et puis, ça a fonctionné.
En étant énergéticienne. Aux Antilles, du coup, tu as commencé, c'est ça ?
Oui, j'ai commencé aux Antilles. Et puis après, la vie m'a fait rentrer en France avec ma fille et son père. Et puis, son père est parti. Donc, j'ai continué énergéticienne toute seule avec ma fille.
OK. Et comment ça s'est passé, tes premiers clients, tu n'as pas trop galéré parce que du coup, tu étais en pleine reconversion. Comment tu t'es créé cette nouvelle vie, ce nouveau statut ?
Bah, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai travaillé, j'ai fait connaître. Alors, c'était vraiment le début des réseaux sociaux. J'ai été, j'ai fait de la pub sur place. Au début, j'avais un cabinet, donc je recevais en direct dans une petite cahute au fond du jardin que j'avais aménagée de façon à ce que ça fasse un cabinet correct pour mes clients. Il n'y a jamais personne qui s'est plaint. Et puis, j'ai été rapidement débordée. J'avais de super résultats. Ça veut dire qu'en 3 ans, j'avais 30 clients par semaine. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mmh. Et là, j'ai pris un coaching pour apprendre à m'organiser et avoir moins de monde. Et donc, j'ai réorganisé mes offres. Je me suis focalisée sur accompagner des thérapeutes qui veulent se développer. J'avais toujours autant de monde, mais surtout, ce qui a changé, c'est que j'ai dématérialisé mon activité. C'est-à-dire que j'ai laissé tomber ma petite cahute au fond du jardin et j'ai travaillé uniquement sur Internet.
Et au comment bout ça de marche, ans, j'ai... faire de l'énergétique sur Internet ?
Ouais, moi, je travaille sur le champ énergétique. Et puis, en fait, mon accompagnement pour les thérapeutes, c'était beaucoup énergétique et marketing. J'allie les deux, en fait, puisque c'était mon métier d'avant. Et moi, je peux ressentir la personne, qu'elle soit sur ma table ou à 8000 km. C'est-à-dire que je sens quand est-ce qu'elle arrête de respirer, quand elle est stressée, je sens où elle a mal, etc. Et aussi curieux que ça puisse paraître, nombre des clients que j'ai accompagnés, enfin tous, savent quand je commence la séance. Donc, quand je travaille à distance, j'éteins l'ordi, donc on ne se parle plus. Et ils me sentent arriver, ils sentent mes mains. Ils savent exactement où je travaille et ils savent quand c'est fini.
C'est incroyable. C'est passionnant, je trouve, ce genre de métiers qui sont très méconnus et dont peut-être encore beaucoup de personnes se méfient. Mais pour l'avoir testé aussi, je peux dire que ça marche. Mm-hmm. J'ai testé des séances avec plusieurs personnes et c'est assez incroyable. Donc, du coup, tu as dédié ta vie à ce moment-là à soigner les autres.
C'est ça. Et en fait, quand je me suis rendu compte que je ne pourrais pas tout faire, quoi, je ne peux pas soigner la planète, hein, surtout en ce moment, vu comment elle a besoin de thérapeutes, je me suis dit que j'allais accompagner d'autres thérapeutes. Donc, j'ai accompagné des thérapeutes et des coachs et des gens qui ont des entreprises qui font du sens à se déployer. Et parce que je me suis dit, moi, je ne peux pas recevoir plus de 30 personnes par semaine, mais si je reçois 15-20 thérapeutes qui veulent recevoir 30 personnes par semaine, alors ça fait déjà 600 personnes. Et donc, j'ai commencé à transmettre comme ça ma vision énergétique, à expliquer, etc. Voilà, et puis, je suis encore en train de changer, comme tu le sais, peut-être on va en parler, mais ces dernières années, j'ai accompagné principalement des chefs d'entreprise. Donc, si tu veux, les chefs d'entreprise, ils sentent l'énergie ou ils ne la sentent pas. Tu vois, tu ne peux pas leur inventer qu'ils vont la sentir. Et donc, ils voient leur chiffre d'affaires se développer de manière exponentielle, quoi. Donc, ils voient vraiment l'utilité de l'énergétique dans leur business. Et donc, quand tu as compris ça, après, ça marche.
C'est génial. Franchement, bravo. Mais en parallèle de tout ça, du coup, j'ai cru comprendre aussi que tu avais continué à voyager avec ta fille.
Eh bien oui, j'ai continué à voyager avec ma fille. En fait, moi, le voyage, ça me manquait vraiment. Donc, j'ai eu quelques années de stop donc, en France, le temps de me reconstruire après le départ de son père et le temps de monter mon business. Et puis, en fait, une fois que mon business a été dématérialisé, je me suis dit que j'avais trop envie de voyager. Et j'avais surtout envie de voyager avec elle. J'avais envie de lui transmettre ce que moi, j'avais reçu, en fait. Elle avait 9-10 ans. Et je me suis dit, c'est le moment idéal pour l'emmener visiter le monde, pour qu'elle puisse comprendre ce que j'ai vécu, qu'elle puisse voir d'autres cultures, etc. Donc, je lui ai dit qu'on allait partir. Alors, au début, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas partir parce qu'elle ne voulait pas quitter ses copines. Donc, j'ai attendu la fin du CM2 et on est parti. Alors, on était déjà parti plusieurs fois avec elle pendant les vacances scolaires. On a fait la Sicile, les Galapagos, le Maroc. Et puis en fait, là, je lui ai dit, on part ou on court. Donc, elle a préparé son sac à dos et on est parti. Donc, la première fois, on est parti 7 mois. En fait, j'avais vraiment envie de refaire avec elle ce que j'avais adoré, moi. Donc, j'avais prévu 7 mois pour le Pérou, le Machu Picchu, le lac Titicaca, voilà.
Amérique latine.
C'est ça. En fait, quand j'avais terminé mon boulot au Chili avant de partir aux Antilles, comme je t'ai dit, j'avais fait ce voyage-là, mais je l'avais fait en 10 jours. Et là, je voulais vraiment avoir du temps pour elle, enfin pour elle et pour là-bas. Je voulais vraiment qu'il y ait une immersion dans la culture. Donc, on est parties toutes les deux. Voilà, c'est toutes les deux.
Donc, mais du coup, tu as fait comment seule, tu l'as déscolarisée? Vous avez pris une année sabbatique? Comment ça s'est passé?
Non, je l'ai mise au CNED, comme sa mère 30 ans plus tôt. Sauf que maintenant, le CNED, c'est par Internet. Donc, c'est quand même drôlement plus pratique. Et en fait, c'était super comme organisation, puisque je travaillais 2 jours par semaine. Avec mes clients, et elle travaillait 2 jours sur son ordi pour faire sa... Donc elle a fait sa 6e, sa 5e et sa 4e par correspondance. En fait, 3 ans. On est parti 3 ans, ouais.
D'accord. Et comment ça s'est passé avec elle? Elle a aussi bien vécu que toi, ou c'est quoi ton regard maintenant en tant que mère sur ce genre de voyage?
Alors moi, j'ai trouvé que c'était fantastique. J'avais plusieurs objectifs, en fait, dans ce voyage avec elle. Mon premier, c'était la transmission. C'était qu'elle bénéficie de ce que j'avais, moi, expérimenté plus jeune, sachant que je n'ai compris qu'à 30 ans, quasiment, toute la richesse de ce que j'avais expérimenté quand j'en avais 15. Et là, on en est là. C'est-à-dire que, pour elle, OK, on a fait ça, point. Or que moi, je sais très bien que ça va s'intégrer dans les années qui viennent. Ça, c'était un de mes objectifs. L'autre des objectifs, c'était qu'elle comprenne l'intérêt de parler des langues étrangères. Donc, je voulais qu'elle parle anglais, espagnol quand on revient. Ce qui était vraiment chouette, c'est que la première année, on est parti. Donc, j'avais pris un billet d'avion 7 mois parce que la famille était quand même un peu inquiète. Donc, il fallait qu'on revienne pour dire qu'on était toujours en vie, quoi, j'ai envie de dire, pour faire coucou. Et en fait, ce qui était juste génial, c'est que elle a adoré, elle a appris plein de choses sur le chemin, elle a appris toute seule l'espagnol, je crois qu'elle a vraiment trouvé sa voie puisqu'elle a appris de l'art péruvien, elle fait du macramé à un niveau incroyable qu'elle vend déjà, enfin bon bref, donc elle a choisi sa voie en tant qu'artiste. Et ça, en fait, ça s'est révélé durant le voyage, durant la première année de voyage. Et puis la deuxième année, moi, j'avais vraiment envie de repartir. Bon, elle était plutôt d'accord, on va dire. Et donc, on a refait l'Amérique du Sud, mais de l'autre côté. Donc, on a fait Brésil, Argentine, et on est allé jusqu'à Ushuaia, toutes les deux. Donc ça, c'était vraiment top parce que Ushuaia, c'était un endroit que je ne connaissais pas. Donc, la première année, on a fait des endroits que je connaissais pour que je me sente à l'aise aussi. Moi, je parlais l'espagnol très bien, il fallait qu'elle comprenne l'espagnol. Donc, il y avait cette mise en route. Et la deuxième année, on a fait des endroits que je ne connaissais pas. Et là, c'était vraiment la découverte pour toutes les deux. Donc, c'était magique.
Et au niveau du logement, du déplacement, vous faisiez comment?
Alors, en fait, il y a aussi le côté écolo et slow travel, c'est-à-dire que pour moi, c'était normal de prendre un billet d'avion long, c'est-à-dire que 6 mois, ça me paraissait… je ne peux pas partir pour 15 jours, faire une traversée de l'Atlantique pour 15 jours, je ne peux pas. Enfin, pour moi, c'est écologiquement parlant, tu vois, ce n'est pas responsable et je sais que toi, tu es pareil.
Exactement. Donc, voilà.
Et puis, on a voyagé principalement en bus, transports locaux. On a passé la frontière bolivienne en tuk-tuk, on était morts de rire. Elle a fait des vidéos d'ailleurs, elle a fait une chaîne YouTube qui s'appelle Les fous d'aujourd'hui, les sages de demain, la chaîne pour les gens qui ne pensent pas comme tout le monde.
Génial.
C'est une chaîne. Ouais, bon, elle le fait plus maintenant parce qu'elle a 15 ans, donc si tu veux, elle n'est plus dans ce mood-là. Mais elle a partagé nos voyages. Donc, tu vois, on a tout fait en transports locaux. Et puis, les logements, c'était principalement pension, là. Enfin, tu vois, ouais, pension ou petit hôtel, voilà, chose comme ça.
Et toi, le fait, du coup, de travailler que 2 jours par semaine, ça suffisait à couvrir tous vos frais ?
Largement, mais alors très, très largement. Je pense que ça, c'était ma peur de la première année, tu vois, de manquer. Et puis, ma peur, c'était aussi de perdre mes clients, que mes clients croient que je suis en vacances. Et en fait, c'était parfait. 2 jours, pour moi, en tout cas, c'était un bel équilibre. Ça permettait d'avoir ensuite du temps pour faire les transferts d'un endroit à un autre endroit. Et puis, ça permettait d'avoir du temps pour visiter. La première année, on a beaucoup bougé. La deuxième année, elle m'a dit « Oh, j'en ai marre de faire et de défaire ma valise à chaque fois. » Donc, on faisait des arrêts plus longs, ce qui permettait aussi de négocier le prix du logement. Donc, en général, on s'arrêtait un mois, voire 2 ou 3 mois. Et ça permettait que ce soit bien moins cher. Et puis, de cet endroit-là, en fait, on faisait des visites un petit peu en étoile, tu vois, comme ça.
Et par rapport à la France, du coup, tu dirais que ça coûte moins cher de faire ce genre de trip que de vivre en France, ou c'est pareil ?
Ah bah largement, c'est une horreur de vivre en France. Je veux dire, avec un caddie de supermarché ici, je mange au resto avec elle pendant 10 jours.
Ouais.
Sans faire la cuisine, sans faire la vaisselle, sans faire les courses. Ah non, mais moi, c'était le bonheur de vivre en Amérique du Sud.
Et c'est souvent ça, parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on est à l'étranger comme ça longtemps, on est tout le temps en vacances. Mais effectivement, tu as quand même ton temps où tu travailles pour subventionner ce voyage. Et on ne pense pas souvent, mais le prix de la vie est souvent moins cher dans d'autres pays. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut être riche pour faire ce genre de voyage, mais pas du tout. En fait, il y a plein de techniques, comme tu dis, voyager avec les transports locaux, rester dans des petits hébergements.
J'étais, bien sûr, beaucoup plus riche à vivre là-bas qu'ici. Enfin, je veux dire, ici, tu payes l'électricité, le gaz, l'essence, ça y est, le budget voyage pour un mois est dépensé.
Et puis plus riche au niveau de l'argent, mais au final, tu étais plus riche aussi au niveau des aventures et des expériences.
Ah bah évidemment, et puis ça a enrichi ma fille d'une manière incroyable parce que bah, du coup, elle parle anglais maintenant. Donc la troisième année, on est revenu. La troisième année, on a fait... Elle voulait des copains, donc j'ai trouvé un endroit dans le sud de l'Espagne avec un hub de World Schooler, c'est-à-dire World Schooler, c'est les gens qui voyagent avec leurs enfants pour leur faire découvrir le monde. Et j'ai découvert, j'étais pas la seule, évidemment, ça je le savais, mais j'ai découvert qu'il y a des endroits où ces gens, des gens comme moi, se rejoignent. Et donc, on est arrivé là et il y avait plein de copains pour elle de toutes les nationalités, c'était fantastique et on est resté 6 mois.
Tu me passeras le lien, je le mettrai dans la description de l'épisode pour les gens que
ouais,
ça intéresse.
Si
tous les
ouais,
gens qui ont des enfants et qui ne savent pas comment faire pour voyager et qui voudraient
c'est
faire
ça.
Comme toi, je mettrai tous les liens de toute façon même pour te suivre sur les réseaux en description.
Ça marche.
Et donc, c'est quand que tu es devenue écrivaine, Marie-Laure ?
Alors, je suis devenue écrivaine pendant... Alors, attends, ça fait 12 ans que je suis écrivaine. C'était au début de mon activité d'énergéticienne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'expliquais toujours la même chose à mes clients. Non, c'est même pas ça. Au début, on m'a sollicité pour faire des stages parce que j'avais une façon de vivre l'abondance, on va dire, ou d'attirer l'abondance qui interpellait. Et en fait, on m'a demandé comment je faisais. Donc, j'ai expliqué que c'était un travail énergétique, une vision de la vie, etc. Et j'ai commencé à faire des stages. Et en fait, j'ai fait un support de stage. Et puis, un jour, je me suis dit que j'allais envoyer ce support de stage à un éditeur pour rigoler. Et en fait, je lui ai envoyé deux supports de stage et il a pris les deux. Et donc, il m'a dit qu'il fallait les changer pour les mettre en format livre, et c'est ce que j'ai fait. Et puis, donc, c'était tout au début de mon activité d'énergéticienne, et c'était en complément, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai eu une vie où je m'occupais de ma fille qui était jeune, seule. Je lançais mon activité d'énergéticienne et j'écrivais la nuit.
Donc, tu dormais quand?
Je sais pas en fait. Non, je dormais en général, je dormais 5 heures par nuit, 2, 3, enfin, tu vois, avant de m'emmener à l'école, de 2 heures à 7 heures, quoi.
Voilà. C'est un bel exemple pour les mères célibataires qui aimeraient aussi voyager et faire plein de trucs.
Je pense que c'est. Pour moi, si tu veux, souvent, on dit « Ah ben non, mais je ne peux pas voyager parce que les enfants vont à l'école et tout. » Moi, j'ai choisi que je voulais voyager parce que j'avais une fille et que je voulais lui montrer le monde. Et Dieu merci, je l'ai fait à ce moment-là, puisqu'en fait, le premier confinement, on l'a vécu en Andalousie. Tu vois, et puis après, on est rentré pour différentes raisons. Mais je me dis, mais heureusement que je l'ai fait à ce moment-là, parce que là, maintenant, c'est plus possible.
Oui, en fait, il ne faut pas repousser à plus tard toujours, parce que souvent, plus tard, c'est trop tard et on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc,
exactement.
Si on peut faire quelque chose maintenant, il faut y aller, même si ça fait peur.
C'est ça.
Et à un moment donné, tu brûles ton bateau, donc tu achètes tes billets, et puis après, c'est un compte à rebours, et puis tu fais tout ce qu'il faut, et puis c'est parti pour l'aventure, et puis après, tu ne regrettes pas, hein, de toute façon. Ouais. C'est ça, la
vie. C'est ça.
Et depuis donc, ce premier essai que tu as fait, tu as quand même écrit 10 livres en tout.
Oui, j'ai écrit 10 livres parce que ça m'a permis pendant toutes ces années de partager mes compréhensions énergétiques, de partager comment j'accompagnais mes clients. Et puis le dernier, en fait, le dernier, il est encore une fois en train de changer, de bouleverser complètement ma vie. Et j'avoue qu'avec l'âge, je me pose plus de questions, mais j'ai envie de. C'est mon aventure, c'est ma dernière aventure en fait, puisque le dernier c'est l'histoire d'une rencontre, c'est une histoire vraie, d'une rencontre avec un homme qui a bouleversé ma vie. C'est pas mon amoureux ni rien, mais il m'a vraiment fait voir la vie autrement. Il m'a fait sortir des jugements, etc. Et en fait, je l'ai écrit sous forme d'un roman. Parce que j'avais envie qu'ils puissent toucher plus de monde, parce que j'avais envie qu'ils puissent toucher des gens qui ne sont pas branchés développement personnel et énergétique. Et ça marche pas mal, j'avoue. Enfin, je sais que les gens qui le lisent sont bouleversés et se posent plein de questions, et c'est ce que je voulais.
Oui, alors pour la petite info, d'ailleurs, je l'ai lu ton livre, hein, pour ceux qui nous écoutent.
Alors, raconte.
Je te l'avais commandé. Donc, le livre s'appelle « Sur le chemin du cœur ». Et c'est vrai qu'il est très prenant, on passe par plein d'émotions différentes. Et il y a vraiment une évolution entre le début et la fin, on apprend à découvrir le personnage. C'est une histoire qui est hyper forte sur des sujets sensibles. Mais ça vaut le coup, je ne veux pas spoiler, j'en dirai pas plus. Sur le chemin du cœur, si jamais vous voulez le lire, il est bouleversant, il dérange par moments. Mais à la fin, c'est une très très belle histoire. Et de savoir que ça a été écrit en plus par toi, une amie, et que c'est une histoire vraie que tu veux partager, c'est encore plus fort. Donc je fais le petit partage du jour.
Merci Emeline. Oui, je sais que c'est bouleversant, mais je sais que ça fait avancer sur le chemin de la résilience, on va dire. Et en fait, j'ai envie d'écrire que des romans maintenant. J'ai plus envie d'écrire des livres didactiques comme je le faisais. Mmh. Et j'ai décidé de me consacrer à ça, même si ça paraît fou, parce que tout le monde va te dire « Ah, mais c'est difficile de vivre de ton écriture. » Il y en a qui y arrivent, donc pourquoi pas moi ?
Exactement. Et
voilà. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai envie d'essayer ça. Donc, ça fait quelques mois seulement. Donc, j'ai décidé de, en tout cas, faire une pause dans l'accompagnement de mes clients. Donc, je termine les clients avec qui je travaille jusqu'à présent, mais j'en prends pas de nouveau pour me laisser du temps pour écrire de cette manière-là et voir ce que la vie m'amène.
Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Et pour la suite, justement, c'est quoi tes projets ? J'ai vu que tu avais acheté un van.
Oui, j'ai acheté un van. Alors ça, c'est un rêve que j'avais depuis une trentaine d'années. Tu vois, c'est un rêve que j'ai eu quand j'habitais le Chili. je me suis dit, oh, mais il faut faire ça en van. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait même pas des routes, il n'y avait même pas de route. La carretera austral n'était même pas praticable, quoi. Tu ne pouvais pas aller jusqu'au bout. Maintenant, ça se fait, elle est goudronnée, enfin, c'est royal. Mais j'avais toujours, depuis ce moment-là, je rêve de faire, de vivre en van. Et puis, bon, je crois que le bateau aussi m'a préparé à ça, ce côté. Alors, je ne referai pas du bateau parce que j'ai le mal de mer. Mais voilà, le van, dans l'idée, ça me plaît bien. Même si, effectivement, bah oui, il y a la problématique de l'essence. Mais enfin, bon. Donc, effectivement, la vie m'a amené en van il y a quelques mois que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester parce que j'ai deux droits modifs à faire dedans et puis il n'est pas isolé comme il faudrait, donc il faut que je retravaille un peu ça. Mais c'est prévu, donc je vais tester dans les semaines qui viennent là.
Génial. Et du coup, tes projets plus moyen, long terme, tu te vois comment?
Bah là, je suis encore en métropole pour quelques années puisque ma fille, maintenant, elle voulait plus repartir. Elle voulait une école normale avec des profs normaux. Donc, donc voilà, je suis là. Et puis, dès qu'elle prend son envol, je repars.
Génial. Quelle aventurière.
Je ne sais pas, mais j'ai vraiment besoin de ça. Tu sais, je me sens tellement bien quand je découvre, quand je voyage, quand je discute avec des gens qui m'expliquent leur vision de la vie. Enfin, je trouve qu'il y a une ouverture quand tu voyages qu'il n'y a pas ici, enfin, quand tu es sédentaire. Ouais. Et puis, ce que j'aime aussi beaucoup dans le voyage, c'est laisser la vie me proposer ce qu'elle a à proposer. C'est-à-dire, en général, et c'est aussi l'idée du van, je ne sais pas où je vais demain. Enfin, tu vois, on a fait ça beaucoup avec ma fille à la fin. C'est-à-dire que l'idée, c'est bah, si c'est bien, on reste. Si ce n'est pas bien, on s'en va. Et donc, il nous est arrivé de nous installer à un endroit pour 3 jours et finalement, on est resté 2 mois. Et d'autres où on s'est dit, oh, ça va être génial. Et en fait, au bout de 4 jours, on était partis. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette fluidité que peut amener le voyage parce que bah, tu voyages en fonction des rencontres que tu fais.
Oui, c'est exactement vrai. En plus, je suis en plein dedans aussi en ce moment. J'ai complètement changé mes plans à cause d'une rencontre, enfin grâce à une rencontre. Et non, c'est tout le temps comme ça. En fait, ça apprend vraiment à relativiser parce que moi, c'est pareil. J'ai une période de ma vie où je devais tout planifier, tout calculer parce que c'était rassurant, parce que j'avais besoin de savoir, voilà, de cadrer mon temps. Et le voyage, effectivement, m'a beaucoup appris à lâcher prise et à accepter que les plans changent. Ça a pris du temps, c'était pas facile, mais c'est un très, très bon exercice pour ça. Et du coup, ça m'amène à la fameuse question, quelles sont les 3 leçons de vie que tu aimerais partager avec ceux qui nous écoutent?
Alors, la première leçon de vie, ce serait que j'ai appris ça dès toute gamine, c'est que quand tu mets toute ton énergie dans ton projet, alors tu peux le réaliser. Et ça, c'est vraiment ce que m'ont appris les parents, hein, parce qu'ils ont acheté la coque, chaque salaire servait à acheter une voile, 10 mètres de contreplaqué marine, du vernis, etc. Et finalement, ça s'est fait. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé tout au long de mon parcours, ça. Tu vois, oui, c'était compliqué, par exemple, de prendre la décision de partir avec ma fille. C'était flippant, je ne peux pas dire le contraire. Je me suis posé plein de questions. Qu'est-ce qui se passe si jamais il m'arrive quelque chose et qu'on est à l'autre bout du monde et qu'elle ne parle pas la langue, etc. Mais quand tu mets toute ton énergie à préparer ton projet, eh ben, finalement, tout se passe parfaitement bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'avais envie de dire, j'en ai déjà parlé, c'est que le fait d'avoir des enfants ne devrait pas être une excuse, mais un moteur. Ça, c'est tellement important. Je me suis rendu compte quand on a voyagé toutes les deux, et je ne m'en étais pas rendu compte avant de partir, comment notre binôme était inspirant.
Oui.
Je me suis rendu compte des préjugés qu'avait tout le monde. Tu vois, par exemple, on arrive à Arequipa, on prend un taxi à la sortie de l'aéroport et la femme, donc ma fille rentre dans le taxi, je rentre dans le taxi et la femme garde la taxista, laisse la porte ouverte et je lui dis bah, qu'est-ce que vous faites? Elle me dit bah, j'attends ton mari. Je lui dis bah, il n'y en a pas.
Génial.
Tu vois? Et en fait, là, ça a ouvert un truc où elle m'a dit mais moi aussi, je suis mère célibataire, ça, c'est mon deuxième métier. Enfin, bref, je suis devenue copine avec la taxista, tu vois? Et en fait, je me suis rendu compte. Tous les voyageurs qu'on a rencontrés alors, lui ont tous dit qu'elle avait de la chance, donc elle ne voyait pas quelle chance elle avait, elle la verra plus tard, mais je me suis rendu compte comment c'était inspirant et c'est vraiment un moteur, tu vois. Et enfin, j'avais envie de dire, la troisième chose, c'est oser traverser ses peurs parce que c'est ce qui permet de rebondir et je l'ai évoqué, tu vois. Quand j'ai perdu mon travail dans le casino et que je me suis retrouvée, voilà, je me souviens très bien, assise par terre, au sortir de mon bureau, en me disant « qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Et en fait, je me suis dit « c'est la chance de ma vie. En fait, on m'offre la chance de ma vie. » Mais forcément, je ne l'ai pas vu tout de suite comme ça. Il m'a fallu une ou deux heures de rage et de tout ça.
Bon, c'est quand même rapide, une ou deux heures.
Ouais, bah oui, mais oui, si, c'est à peu près ça. Mais j'étais. Et je pense que ça, c'est une vraie leçon. Tu vois, qu'est-ce que j'en fais de ce qui m'arrive plutôt que de me lamenter. J'aurais pu faire ah, c'est nul. Je suis allée dire à la personne qui avait pris ma place dans mon bureau, une femme en plus. Je suis allée lui dire tout le bien que je pensais de ce qu'elle avait fait. Voilà, mais après je me suis dit bah finalement peut-être que je peux le voir différemment et si je le vois différemment c'est de la chance de ma vie.
Magnifique.
Voilà,
complètement raison. De toute façon ça change pas, une fois ce qui est fait, après c'est à toi de voir comment tu réagis derrière et ce que t'en fais. Tu peux passer ta vie à te dire que t'as pas eu de chance et ça changera ce qui est arrivé, alors que si tu mets ton énergie dans un nouveau projet, et bah, tu rebondis et puis tu passes à autre chose. Et puis, il y a plein d'autres trucs à faire dans la vie. Et voilà, si tu t'es fait virer d'un endroit, c'est que tu n'avais plus à être ici et que tu avais d'autres choses à faire.
Exactement. Donc, après, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Bah, ok, énergéticienne, bah, allez, on y va.
Après, ça peut être challengeant parce que c'est à ce moment-là que tu as eu ta fille en plus.
Ah bah oui, ma fille, elle avait un mois.
Ouais, donc là, il y a beaucoup de gens qui paniqueraient et se diraient, mais comment je fais, quoi? Donc, toi, tu as quand même réussi à rebondir. C'est quand même très incroyable, je trouve.
Bah, ouais, j'avais pas le choix. Mais je suis allée négocier.
T'as raison. Une forte, indépendante, voyageuse, une aventurière. Tout ce qu'on aime. Bravo.
Écoute, j'espère, j'en sais rien.
Et quel a été le... Allez, si tu devais choisir un meilleur souvenir de toutes ces expériences, tu garderais lequel? C'est dur, hein.
J'en ai tellement, je dirais, ce qui me vient là, mais j'en ai plein d'autres, quoi. C'est vraiment, ce qui me vient, c'est, alors on est au geyser au-dessus, entre la Bolivie et le Chili, quand le sol, donc il fait très froid, on est à 4000 mètres d'altitude, il fait très froid la nuit. Et quand le soleil se lève, en fait, il y a des geysers d'eau qui s'élèvent au moment où le soleil touche la terre. Ça fait des fumées, ça fait des jets d'eau incroyables qui font plusieurs dizaines de mètres de haut. Ce qui me viendrait, c'est d'avoir emmené ma fille là. C'est de la voir. Alors, on est emmitouflés, on a à peu près toute notre valise habillée parce que quand c'était la première année, donc on faisait aussi de la plage et tout ça, mais donc je lui avais fait mettre tous nos habits pour pas qu'elle ait froid, parce qu'il est 6h du matin, et je me rappelle, elle est habillée un peu en cosmonaute comme ça, et elle voit la Terre qui parle, en fait, tu vois, elle voit tout ce qu'on apprend à l'école, les volcans, la terre qui bouillonne, le soufre, etc. Et pour moi, c'est une fierté incroyable.
C'est magique. On s'y voit tout de suite. C'est très, très, très bien raconté. Merci beaucoup pour tout ça.
Avec plaisir.
Je pense qu'on a déjà raconté beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que tu penses à un autre épisode de ta vie qu'on n'aurait pas abordé, que tu voudrais partager?
Ah bah non, tu sais déjà, c'est très... Je crois que c'est la première fois que je raconte ma vie comme ça, avec autant de détails. J'espère que ça aura intéressé tes auditeurs, parce que moi, je trouve ça... Moi, je trouve que c'est une vie normale. Enfin, si tu veux, je trouve que... Voilà, s'il n'y avait pas... Pour moi, ce qui est vraiment important, et je crois que c'est ça, en fait, pour le concept d'aventurier pour moi, enfin, j'en sais rien, c'est que je ne veux pas vivre avec des regrets. À la fin de ma vie, quand je serai couchée là, sur mon lit de mort, je veux me dire « Waouh, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Je me suis éclatée. » Tu vois, et j'essaye de faire de ça ma devise, en fait. Alors, de temps en temps, effectivement, ça part un peu dans tous les sens parce que j'ai envie de faire plein de trucs à la fois. Mais je sais que si je devais mourir demain, ce qui n'est pas prévu du tout, eh ben, j'aurais pas de regrets, quoi. Je me suis éclatée. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et ça, je trouve que c'est hyper important.
Exactement. J'ai exactement la même philosophie que toi. Je ne peux que valider cette idée. Mais est-ce que tu aurais, par exemple, un dernier conseil pour les gens qui voudraient faire comme toi, mais qui ont peur, par exemple, qui sont dans leur maison, qui ont leur boulot, qui ont leur routine, mais qui sont attirés par ça, mais qui ne savent pas comment faire le premier pas vers une vie comme ça, parce que ça demande beaucoup de courage de quitter tout son confort et partir à l'aventure comme ça. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à, par exemple, une mère célibataire qui aurait un ou plusieurs enfants ou des familles entières ou des gens sans enfants qui se diraient « Oh là là, j'ai trop envie de faire pareil, mais j'ai peur pour l'argent, mais j'ai peur pour ceci. » Est-ce que tu aurais un conseil pour tout résumer, pour les aider à sauter le pas?
Bah, je ne sais pas. Je dirais qu'au pire, ils peuvent toujours revenir.
Ouais.
Tu vois, ça ne sert à rien de... Moi, je crois vraiment. Puis, c'est tellement enrichissant, tu apprends tellement de choses. Mais zéro regret, quoi. C'était à refaire de partir avec ma fille, mais tout de suite, quoi.
Mm.
Alors, bon, maintenant, elle a 15 ans. Elle est autonome, hyper indépendante. Donc, c'est un petit peu chaud en ce moment. Mais je suis super fière, en fait. C'est ce que je voulais pour elle.
C'est très beau. Ben, merci beaucoup pour tous ces conseils, Marie-Laure.
Merci à toi, Emeline, pour ton invitation.
Je trouve que ta vie est hyper inspirante. J'espère que les gens qui nous écoutent seront aussi inspirés. Et je pense qu'on peut rester là-dessus. Ça fait déjà beaucoup d'images et d'histoires à ingérer et à rêver. Donc, merci encore une fois. Et puis, je te dis à bientôt. Je mets tous les liens pour te retrouver sur les réseaux sociaux, ceux qui veulent te suivre, ou t'écrire un petit message, ou acheter ton livre. Enfin, tes livres, parce que tu en as plusieurs. Et je te dis à très vite pour une nouvelle aventure.
J'espère que cet épisode t'a inspiré, que tu as appris des choses et que tu as plein de motivation pour aller vivre tes rêves et faire de ta vie une aventure. N'hésite pas à partager ce podcast autour de toi pour m'aider à inspirer le plus de monde possible. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram avec @adventuresway. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et de nouvelles aventures.